Yeah, donc, je pense que c'est bien allumé, c'est bon? Vous m'entendez? Oui? OK. Donc, nous sommes vraiment heureux d'être ici. Donc, on est arrivé vendredi soir. Je suis arrivé de Nice. Laure était aux États-Unis avec sa famille donc depuis 10 jours. Donc, on était ravis de se retrouver à Montréal avec Ken et Tonya. Et donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je crois que c'est le 5e ou 6e fois qu'on vient. C'est depuis que Pasteur Ken et Tonya nous ont parlé à Nice du Québec et leur vision pour venir ici au Québec, nous avons Québec au cœur. Et donc, nous venons assez régulièrement. J'étais ici il y a 2 ans passés. Je suis venu exprès pour travailler avec Pasteur Ken pour préparer une présentation pour avoir le droit de devenir Réma France et Réma Québec. Et en quittant ici, j'ai eu toutes sortes de problèmes. L'avion dans lequel je suis monté n'est pas décollé. J'ai assis 2 heures dans cet avion. Après, ils ont dit, on ne peut pas décoller parce que si on décolle, on ne va pas pouvoir atterrir. Et j'ai dit, c'est très bien. Donc, on a changé d'appareil. J'ai passé plus que 8 heures à l'aéroport de Montréal. Et finalement, j'ai insisté qu'ils me mettent dans un avion parce que le lendemain, j'avais ce rendez-vous pour qui était pour moi le plus important de ma vie à l'époque, pour avoir le droit de devenir Réma France, directeur de Réma France, et j'ai pu partir, et les choses ont tellement changé depuis, parce qu'on a ouvert en septembre Réma France avec 20 étudiants, vous avez ouvert ici Réma Québec, donc avec 10 étudiants, et nous travaillons ensemble. Pasteur Ken, comme vous le savez, est déjà venu en France, il a enseigné les étudiants, on l'a adoré. Et donc, vous avez déjà eu André ici. Vous aurez donc Marc McCord et Nery Dauphin dans les mois à venir. Et je suis ravi d'être ici avec vous dans l'église. Donc, pas mal d'entre vous, je vous connais par visage, mais je ne me rappelle pas de tous les noms. Donc, viens me voir et serre ma main et dis-moi quel est votre nom. Parce que nous sommes pasteurs aussi, comme Pasteur Ken a dit, on aime les gens. Amen. Donc, nous avons aussi une maison d'édition. Nous sommes en train, à ce moment, d'imprimer 3 nouveaux livres de Kenneth Copeland, Kenneth et Gloria Copeland. On est en train de travailler sur 2 autres, un de Tony Cook, un autre de Kenneth Hagin sur la question des femmes. Notre maison d'édition n'a jamais aussi bien fonctionné. Des milliers de livres entrent et sortent tout le temps. J'ai reçu 8500 livres jeudi. Donc, Dieu est en train de bénir. Aussi, nous avons donc, ma femme et moi, un ministère itinérant et nous voyageons à travers la Suisse, la France. On était en Belgique l'année dernière en novembre et nous enseignons beaucoup sur la famille. Donc, pour que les choses soient claires, ces prochaines 4 soirées, nous allons parler surtout de la vie émotive de chacun. Donc, on va parler donc de la vie du mariage, de vie de couple, mais nous allons aussi parler aux célibataires. On va faire un enseignement particulier. Est-ce que tu te rappelles quel jour on a dit qu'on allait faire ça? C'est en route vers le mariage. Donc, je pense que c'est mardi et mercredi. Donc, ça va être aussi intéressant pour les gens qui sont déjà mariés, qui ont des enfants, à marier plus tard. Je vous dis à ce moment, nous avons 2 enfants. Rebecca va avoir 22 ans en avril et John va avoir 20 ans en mars. Donc, des grands enfants qui sont absolument magnifiques. Et notre fille est amoureuse à ce moment. Elle se fréquente avec un garçon donc suisse. Donc, on va voir si ce que Dieu va faire. Amen. Mais pendant le soir, on va enseigner tous les deux ensemble. Donc, ça va être un peu différent pour certains d'entre vous parce qu'on s'interrompt mutuellement. Et on va toucher beaucoup de sujets. Pour certains, c'est un peu bizarre au commencement. Et après, vous allez réaliser que ça porte beaucoup plus qu'un prédicateur, un homme qui parle de la vie du couple ou une femme qui parle de la vie du couple, parce que nous parlons même quelquefois au même temps de la vie du couple. C'est très amusant et c'est bon. Donc, comme Laura a déjà dit, je pense, nous sommes ravis d'être ici avec vous. On croit que c'est Dieu qui nous envoie ici. Laura est de Minnesota, du nord de Minnesota, 3h30 au nord de Minneapolis. Elle a promis de jamais venir au Québec pendant l'hiver. Donc le fait que nous sommes ici, et déjà j'ai fait ça il y a 2 ans, est un miracle. Parce que quand vous habitez à Nice, vous savez, il est descendu. Vous parlez en centigrade ou Fahrenheit? En centigrade. Donc on a descendu jusqu'à 5. Déjà, une fois, mais normalement, c'est entre 15 et 18 l'après-midi à Nice. Oui. Soleil bleu, ciel bleu, soleil bleu, soleil qui brille. J'ai encore un petit peu de décollage, d'accord? Hein, il y a 6 heures de différence pour moi donc vous m'excusez. Je veux parler de l'amour ce matin. Est-ce que ça vous va? Parce que je pense parler de la famille sans parler de l'amour ne rime à rien. Mais avant, je veux faire une déclaration. Vous le faites? Voilà, donc vous voulez lever votre Bible, donc peut-être ce sera un peu différent de comment vous le faites, mais vous le secouez un petit peu, on va mettre le diable en colère, et faire plaisir à Dieu. Amen, hallelujah. Vous savez, le diable ne veut pas un chrétien avec une Bible en main, mais encore moins un chrétien avec Bible en cœur. Parce qu'il faut mettre ce Bible dans notre cœur. Amen. Il faut que ça devienne notre livre, notre lettre d'amour de la part de Dieu. Dis ceci avec moi, voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu dit à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme. Et je peux tout ce qu'elle déclare. Ce matin, je laisse la parole de Dieu m'enseigner. Mes pensées sont claires. Mon cœur est ouvert et réceptif. Et je serai transformé. Je suis prêt à recevoir l'incorruptible, l'indestructible, permanente semence de la parole de Dieu. Je ne serai plus le même. Non, jamais plus. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un petit accent. Ouais, je dis toujours, j'ai un petit accent, non, un grand accent. Mais plus que notre accent, nous avons un grand cœur pour la France et pour le monde francophone. Amen. Donc, je veux que vous entendez plus mon cœur que mes fautes de français ou mon accent. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas dit d'où je viens. Est-ce que quelqu'un a deviné d'où je peux venir? Quelqu'un de Nice? Merci beaucoup. Ouais. Je n'ai pas un accent niçois, au moins pas pour les Niçois. Je suis d'Angleterre. Ok. Donc, en préparant ce matin, Dieu m'a donné un chant pour vous. Donc, ce n'est pas moi qui ai écrit le chant. Et peut-être vous connaissez le chant. Au moins, si vous avez mon âge, vous connaissez bien ce chant. Parce qu'il y avait un groupe. À l'époque, moi j'avais 5-6 ans et ils étaient devenus célèbres. Et ils s'appelaient les Beatles. Est-ce qu'il y a des fans des Beatles ici? Et il dit, vous allez chanter un chant de Beatles dans l'église. Vous allez comprendre pourquoi. C'est comme ça. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. Na 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 na. All you need is love. Na 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 na. All you need is love. Love. Love is all you need. I'm going fast. All you need is love. Na 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 na. All you need is love. Na 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 na. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Je sais pas comment arrêter, ça va comme ça. Ça va aller. Merci pour la guitare, Jonathan, tu es là. Merci beaucoup. Donc, le seul problème avec ce chant, écrit par le Beatles, c'était un chant donc, assez spectaculaire, n'est-ce pas, à l'époque. Ouais. Même encore les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent ce chant. Ouais. Mais il faut savoir que, quelque part, ouais, les Beatles ont compris quelque chose, mais en réalité, ils n'avaient aucune révélation de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'était plutôt l'époque des hippies et de peace and love. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris les paroles? Ouais? Non, on va se voir assurer parce que. Ouais. Mais ça veut dire, oui, tout ce qu'on a besoin, c'est l'amour. Le problème, c'est que cette idée d'amour à l'époque était de faire n'importe quoi avec n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Il n'y avait aucune question d'engagement, aucune question de constance. N'est-ce pas? Et c'était surtout, ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Donc, Pastor John, pourquoi tu chantes ce chant? Parce que, quelque part, il y avait une réalité, une vérité qui était chantée dans ce chant. Et nous avons besoin de faire très attention dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, parce que nous vivons dans l'époque où le monde croit être tellement sage et juste dans ses pensées. Et nous avons besoin de faire attention que nous ne tombons pas dans le panneau d'ignorer ce que la Bible dit pour prendre ce que le monde dit. Vous êtes d'accord? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, une chose que j'ai appris avant de devenir chrétien, c'est que le monde n'avait aucune solution à m'offrir à mes vrais, véritables problèmes. C'est pareil pour vous ou pas? Ouais. Il peut parler des problèmes, il peut témoigner de leurs problèmes, mais témoigner de solutions, il n'en avait pas. Et quand j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré la solution, et j'ai rencontré celui qui avait les solutions. Parce que c'est bon de dire qu'il est la solution, qu'il est la réponse à tous nos problèmes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu s'intéresse à toute situation dans notre vie et il y a une solution pour chaque problème. Amen. Mais en réalité, moi je dis encore, les Beatles avaient compris quelque chose, sans rien comprendre, c'est que tout ce qu'on a besoin, c'est l'amour. Mais ce qu'il nous faut, c'est l'amour de Dieu. Pas n'importe quelle sorte d'amour. Vous êtes d'accord? Mais encore, on a besoin de faire attention parce que il y a des gens qui croient que l'amour, c'est encore peace, cool, baby cool, tu vois? C'est, soyons gentils avec tout le monde. Oui? Ça, c'est l'amour. Mais l'amour, quelquefois, est très ferme. Amen? Moi, j'étais en train de parler avec une femme de Venezuela dans l'avion. C'était extraordinaire parce que j'ai remarqué cette femme, une jolie femme, et, elle est allée asseoir, je suis allé asseoir, et après, les places ont changé, et j'étais assis à côté d'elle, et je dis, c'était bizarre parce que quelque chose dans mon cœur avait dit que j'allais parler avec cette femme. Donc, je commence de parler avec cette femme, je trouve qu'elle est de Venezuela, qu'elle habite à Antibes depuis 7 ans, elle est mariée avec elle est de Colombie. Son mari est de Venezuela, une petite fille de 15 ans, c'est extraordinaire combien de choses qu'on peut apprendre sur les gens en une heure de vol, n'est-ce pas? Et, elle était dans une église, elle n'est plus dans l'église, ils se réunissent dans leur maison à ce moment, elle vient de vivre un drame avec son frère qui est en prison actuellement en France, elle ne savait pas quoi faire, tu vois. Donc son mari l'a envoyé rendre visite à une amie en Espagne, elle a déversé son cœur envers moi parce que j'ai dit que j'étais pasteur, donc bien entendu j'ai parlé de ma femme, ouais, la femme que j'aime. Moi, avoir une bague sur le doigt en France ne veut rien dire aujourd'hui. Ouais. Donc moi, je dis toujours, surtout si j'ai en face d'une jolie femme, je suis marié, je suis heureux, j'ai des enfants. Je montre qu'il y a, tu vois, les limites des choses très claires. Parce que je ne veux pas. Déjà, j'ai pas besoin de draguer une autre femme, j'ai ma femme. Hein? Et je suis un homme comblé. On est marié donc depuis 26 ans et demi maintenant. Oui, donc on va sur nos 27 ans et les choses vont de mieux en mieux. On s'amuse bien. Hein? Monsieur, je peux vous poser une question, peut-être vous avez oublié, mais jeudi c'est une journée assez importante dans le calendrier romantique. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Saint-Valentin. Oui, donc si vous faites seulement quelque chose pour son anniversaire, pour Saint-Valentin, vous êtes minable. Mais... parce qu'il faut faire les choses régulièrement, nous faisons tous les mois, d'accord? Mais, si vous ne faites pas quelque chose pour le Saint-Valentin, vous êtes encore plus minable. D'accord? Désolé si je vous donne une claque, mais c'est mieux que je vous ferme aujourd'hui dimanche, que vendredi matin, ta femme dit, tu as oublié, n'est-ce pas? Ouais? Au moins une petite carte, une boîte de chocolat, sauf qu'il est en train de perdre du poids, ouais? Parce que ça, c'est pas gentil si elle perd du poids, ouais? Des fleurs ou quelque chose. C'est seulement pour... Ouais, ils aiment l'argent. Vous pouvez nous faire une enveloppe avec quelques billets avec « Je t'aime, achète ce que tu veux », elle sera ravie, d'accord? Mais un chèque en blanc, oui. Ouais. Si ta foi est grande, un chèque en blanc, oui. Mais j'étais en train de parler avec cette femme et elle a ouvert son cœur, tu vois, et j'ai commencé à citer les paroles et les promesses et on a prié ensemble et j'ai vraiment vu que Dieu est intervenu. Elle était, oh, mais c'est extraordinaire, je me suis assis avec un pasteur et tu vois, vraiment j'ai vu la grâce de Dieu, mais son problème était dans la famille. Et aujourd'hui, s'il y a des gens autour de nous, des voisins, des collègues, des membres de notre famille, leur plus grand problème, ce n'est pas les finances, ce n'est pas la santé. Et on peut avoir des graves problèmes dans ces deux domaines. La plupart des gens ont des problèmes dans la famille. Et vous savez, nous ne devons pas faire partie de leurs problèmes. Nous devons faire partie de la solution. Et la solution, écoutez-moi bien, c'est dans l'amour. J'ai une jeune femme dans notre église, elle dirige l'œuvre parmi les enfants, et elle me parlait l'autre jour du fait qu'elle allait monter à Paris voir des amis, une amie donc de la maternelle, une autre amie de la primaire, donc elles connaissent depuis plus que 25 ans, les deux. Elle dit, elles viennent tous les deux de perdre leur père. Ouais. Et un a une difficulté dans son couple, il dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais c'est tout simple. Ouais. Tu représentes Jésus. Tu vas dans leur maison comme Jésus. Et tu laisses Jésus parler à travers tu sais, tu n'as rien prouvé. On n'a rien prouvé avec les anciens amis, n'est-ce pas? Les gens qu'on connaît depuis des années, ils nous connaissent, ils ont vu toutes nos bêtises, n'est-ce pas? Ils ont vu la grâce de Dieu agir dans notre vie. Et je me dis, sois honnête avec eux, ce que Dieu met dans ton cœur, parle. Parle de ton cœur. Et je dis, je sais que Jésus va parler à travers toi. Je dis, merci, Pasteur John, et on s'est accordé ensemble. Amen. Nous devons faire partie de la solution et non le problème. Peut-être que ce sera une bonne chose à dire ce matin. Dis ceci avec moi. Je fais partie de la solution et non du problème. Donc, l'amour couvre une multitude de péchés, nous connaissons. Tournez avec moi dans votre Bible, en Romains 5 et verset 5. Donc, ce que je vais dire ce matin, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je suis en bonne compagnie parce que c'est exactement ce que l'apôtre Jean a dit. Quand il parlait de l'amour, il dit, je ne vous enseigne pas quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression qu'on a besoin d'entendre ça à nouveau. Amen. Oui, on ne peut jamais entendre assez sur l'amour, parce que l'amour, parce qu'il y a pris un des versets que je les vois, c'est que la foi agit par l'amour. Si nous voulons être des hommes et des femmes de foi, il faut que nous soyons des hommes et des femmes d'amour, parce que l'amour est du cœur, et la foi est du cœur. Et quand vous avez la rancune, l'amertume, oui, que vous refusez de pardonner quelqu'un, votre cœur est atteint et votre foi ne marchera pas. Oui. Jésus a dit, quand il a enseigné comment on pouvait parler à la montagne et lui dit de se placer dans la mer, qu'on puisse croire ce que nous prions et voir ces choses arriver, il a dit, mais une chose, si vous êtes debout faisant votre prière et vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et ce matin, j'ai une parole pour plusieurs ici, je suis convaincu. Il faut que vous décidez de pardonner. Parce que vous avez donné plein d'excuses. Elle aura dit, elle a vécu des choses, mais ce n'était pas une excuse pour ce qu'elle faisait. Et vous pouvez avoir plein d'excuses, mais quand vous, le jour que vous décidez, j'espère que ça va être aujourd'hui, mais le jour que vous décidez de pardonner ceux qui vous ont offensé, ceux qui vous ont fait mal, peut-être qu'ils ont fait ça... consciemment ou inconsciemment, on ne sait pas. Mais même s'ils ont fait ça consciemment, quand vous décidez de leur pardonner, vous allez libérer votre cœur et votre foi va produire. Ben, écoutez ce verset, je crois que c'est un verset capital. Quand nous parlons d'amour, Romains 5, 5, vous le connaissez? Est-ce que quelqu'un a déjà souligné dans leur Bible? Oui? Quelquefois, c'est vraiment bien de souligner dans la Bible. Mais moi, je dis, peut-être vous voulez faire plus que ça. Ça veut dire, prends un grand bout de papier, si vous êtes... un peu techno, technique, oui, vous pouvez taper sur l'ordinateur, mais sinon, prends un grand crayon et marquez ce verset et collez là où tu vas le voir pendant chaque journée, au moins une ou deux fois, oui, sur le frigo, sur la glace dans la salle de bain, oui, pour que cette parole puisse devenir réalité pour toi. Trop souvent, nous pensons, parce qu'on a entendu un message où on peut citer un verset, que c'est une réalité pour moi. Mais vous savez, nous devons être des géants de l'amour. Si nous ne grandissons pas, si nous ne croissons pas ailleurs, chaque année nous devons croître en ce qui concerne notre amour. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu est amour. Il a beaucoup de choses, mais il est amour. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Romains 5, 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu. » Aide-moi, parce que je suis britannique. « Est répandu », c'est passé, présent ou futur. C'est passé. Donc, c'est arrivé quand que cet amour est répandu dans nos cœurs? C'est arrivé quand? Il a dit 2000 ans. Donc, vous êtes âgé, madame. Excusez-moi. Hein? Ah, vous êtes très sage, madame. Exactement. C'était spirituellement... C'était acquis à la croix il y a 2000 ans, exactement. Mais Quand est-ce que c'est arrivé chez vous? Il y a, pour madame, donc, c'est Nicole? Il y a 23 ans. Pour moi, il y a 34 ans, quand j'ai dit, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur, cet amour est répandu dans mon cœur. Amen. Est-ce que vous avez un garage? Oui? Est-ce qu'il y a la place dans le garage pour votre voiture? Parce qu'en France, c'est extraordinaire. Beaucoup de gens ont des garages, mais on ne peut pas mettre la voiture parce qu'il y a, c'est un débarras des choses. Je pense que c'est encore plus important ici au Québec de pouvoir mettre la voiture dans le garage. Oui? Mais vous avez un garage pour votre amour. Et il s'appelle votre cœur. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont leur voiture garée. Oui? Et je pense qu'ils ont laissé décharger la batterie. Parce que la voiture ne sort plus jamais du garage. La réalité, c'est que quand vous avez invité Jésus dans votre cœur, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur. Mais nous avons besoin de faire sortir cette voiture. On a besoin de sortir cet amour de notre cœur. Ça ne suffit pas de dire, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Il faut que cet amour se manifeste. Amen. Parce que votre voiture ne vaut absolument rien s'il est resté garé dans le garage, n'est-ce pas? Il faut le sortir, il faut s'en servir. Il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dis ceci avec moi, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Et je vais faire manifester cet amour. Amen. Tournez avec moi en Matthieu 22. Laura, could I have a bottle of water? Matthieu 22, verset 36. Oh, merci. Okay. Vous connaissez ces versets très bien, peut-être trop bien. C'est pourquoi c'est bon d'ouvrir la Bible et les relire, n'est-ce pas? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Combien d'entre vous est content que nous ne sommes pas chrétiens sous l'ancienne alliance? Parce que je rencontre quelques chrétiens, ils sont toujours sous la loi. Ils croient qu'on a besoin d'obéir toutes les lois de l'ancienne alliance, mais quand on a demandé à Jésus, il a dit qu'il y a été une seule loi. C'est la loi de l'amour qui se divise en deux parties, n'est-ce pas? On a demandé quel est le plus grand commandement, et vous pouvez lire donc après Paul, il explique quand nous marchons dans l'amour, nous n'allons pas effreindre les autres lois. Il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pose une question, c'est une question très importante. Est-ce que Dieu vous aime? Oui? Moi je dis, il m'aime. Il m'aime comme je suis, mais il m'aime trop pour me laisser comme je suis. Alléluia? Ok, mais il y a une deuxième question. Est-ce que vous vous aimez? Vous savez, il y a beaucoup moins de gens qui ont répondu là. C'est bon déjà de savoir que Dieu vous aime, et moi je vous dis, voyez, si vous n'entendez pas d'autre chose ce matin, je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Il m'aime comment? Comme ça? Ou comme ça? Non, il vous aime comme ça. Il a permis que son fils soit pendu sur une croix pour vous. C'est autant qu'il vous aime. L'amour de Dieu est infini envers vous. Vous êtes ses enfants. Ouais? Et si vous acceptez cet amour, vous pouvez vivre dans cet amour. Mais ça ne suffit pas de savoir que Dieu vous aime. Il faut que vous vous aimez vous-même. Et ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que peut-être vous avez été élevé dans une famille qui ne vous a pas apprécié. Peut-être vous étiez le troisième ou le quatrième enfant et vous avez toujours entendu « Pourquoi tu n'es pas comme ton grand frère ?»« Ou pourquoi tu n'es pas comme ta grande sœur ?» Ou peut-être que tu n'es jamais arrivé au niveau qu'on attendait de vous. Combien c'est difficile, n'est-ce pas? Mais vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de niveau. Dieu nous aime. Point. Comme je dis, il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, il commence et il travaille de l'intérieur à l'extérieur. La religion, et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens religieux, essaient de changer l'extérieur. Arrêtez d'essayer de changer l'extérieur. Permettez à Dieu de vous imbiber tant à l'intérieur que ça va automatiquement changer l'extérieur. Quand nous essayons d'appliquer la parole de Dieu, nous combattons contre tout. Mais quand nous permettons à Dieu de nous remplir chaque jour, que nous lisons la parole de Dieu et nous laissons notre tête, oui, donc transformer nos pensées, transformer par la parole, et nous laissons la parole de Dieu entrer dans notre cœur, nous trouvons que Dieu nous change de l'intérieur à l'extérieur. Il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est une intimité, c'est une amitié avec Dieu lui-même. Est-ce qu'il y en a des amis de Dieu ici? Dieu veut que vous soyez son ami. Il veut que vous vous réveillez le matin et dites « Bonjour papa, bonjour Jésus, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Et il va vous dire, si vous avez oublié, on va au travail. Parce qu'il y a certains qui disent « Je vais prier si je vais au travail ou pas. » Non, 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 non. Vous avez signé sur la ligne, il faut aller au travail. Oui? On peut être un peu trop charismaniaque, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler des charismaniaques?
Oui,
oui. Oui, ils prient surtout. Oui. Est-ce que je vais nourrir les enfants aujourd'hui? Non, non, on ne prie pas, n'est-ce pas? On ne va pas prier ici, on va changer le bébé. On va changer le bébé parce qu'il a besoin. Amen? Oui. L'amour, oui, de Dieu, il veut être ami avec nous. Donc, il faut que vous sachiez que Dieu vous aime. Mais il faut que vous commenciez à vous aimer vous-même. Oui. Le diable est appelé l'accusateur des frères. Il adore se mettre sur notre épaule et nous dire tout ce qui ne va pas. Oui, jusqu'à que nous croyons que Dieu ne veut plus de nous, que personne n'a besoin de nous, que nous sommes inutiles. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit qu'il vous aime. Dieu dit que vous êtes utile. Dieu dit qu'il a quelque chose pour vous de faire que personne autre au monde puisse faire. Et nous devons dire, Alléluia. Vous êtes utile, monsieur, dame. Vous avez quelque chose à accomplir dans ce monde que personne autre puisse accomplir. Vous êtes trop calme. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je viens de dire. Non, mais je crus que je faisais partie de ces 6 milliards de pions, un chiffre, comme on dit comme ça. Non, non, non. Vous êtes un être créé à l'image de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, aimé de Dieu, et vous avez besoin, oui, d'aimer vous-même. Pourquoi? Parce que le deuxième commandement, c'est que vous aimerez votre prochain comme vous-même. Et ça, c'est le problème dans l'Église. C'est que nous avons presque dénié cet amour de soi jusqu'à que nous en moquons des gens de dehors parce que nous n'aimons pas nous-mêmes. Le jour que vous commencez vraiment à vous aimer vous-même, vous allez vraiment prendre à sérieux la vie éternelle de vos voisins, des autres membres de votre famille. Parce que quand vous réalisez combien vous êtes précieux à Dieu, vous réalisez combien les autres sont précieux à Dieu. Vous comprenez de quoi je parle aujourd'hui? Amen. L'amour, c'est pas quelque chose de flou. C'est pas quelque chose de... Il faut que je fume quelque chose pour aimer tout le monde. Ça, c'était l'époque des mythos. Oui? On fume ou on prend quelque chose et j'aime tout le monde. Oh, les voisins sont merveilleux. Moi, j'ai pris quelque chose. Il s'appelle Jésus. Je le prends tous les jours. Amen. Oui? Mais j'ai pas besoin de me mettre en toutes sortes d'états. Oui, je peux être un homme honnête. Je peux être un mari qui aime sa femme.
Amen.
Un père qui élève ses enfants dans la joie. Amen. Je peux réussir ma vie. Vous pouvez réussir votre vie. Regarde avec moi. 1 Jean 4. Donc, dans notre séminaire, avec les étudiants, avec ceux qui peuvent venir, on va être très, très pratique, parce que je crois que la parole de Dieu est très pratique, et j'ai perdu un Jean. Qui a piqué un Jean de ma vie? Ah, il est là. Juste qu'avant l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 4. Je vais lire un petit peu pour vous. Je ne sais pas si on peut prendre le temps mieux dimanche matin que de lire la Bible. Oui. Quelquefois, on entend les gens dire, je ne vais pas prendre le temps, moi je vais prendre le temps. Seulement parce qu'on a besoin d'entendre ça encore et encore. On a demandé à Jean, il était le plus âgé, vous savez, Jésus a dit à Pierre, quand Pierre a dit à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, mais si je veux, il vivra jusqu'à que je vienne. Et le bruit courait que Jean allait littéralement vivre jusqu'au retour de Christ, et il a survécu tous les autres. Et il était tellement âgé qu'on avait besoin de la porter aux réunions. Et chaque fois qu'on le posait dans les réunions, l'histoire nous dit qu'il disait tout simplement, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et les jeunes disaient toujours, mais tu n'as pas autre chose à dire, tu étais aux côtés de Jésus, tu as vécu, tu vas dans la présence du Maître. Et il dit, mais si nous faisons cela, déjà c'est bien. Écoutez ces paroles. Je commencerai verset 7. Vous y êtes, 1 Jean 4, 7. Alors, je vais vous chanter quelque chose de chrétien parce que je vous ai chanté quelque chose de Beatles. Il dit comme ça, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu, celui qui n'aime pas, connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 1 Jean 4, 7. Vous connaissez pas? Non, vous connaissez pas? Ah, c'est super celui-là, oui. C'est le seul chant que je connais qui a la référence du verset dedans. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propriétaire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. C'est pourquoi c'est tellement important que nous connaissons que Dieu nous aime. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais on veut que ce soit plus que de la poésie. On veut que ce soit la réalité. Amen. Parce que quelquefois de ces versets, on a dit, oh, quelle belle parole. Tournez avec moi en 1 Corinthiens 13. Quelquefois, on pense que c'est les versets pour les mariages. N'est-ce pas? Quand on se marie, on demande au pasteur de lire ces versets. Mais c'est plus que cela. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Est-ce qu'il y a des gens ici qui parlent en langue? Oui. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un rang qui ressonne et un symbole qui retentit. Ça ne suffit pas de parler en langue. Et moi, je parle en langue et l'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus que nous tous. Mais il a marché dans l'amour. Amen. Faut que nous marchions dans l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une décision. Amen. J'ai décidé, il y a 26 ans et demi passés, oui, d'épouser cette femme magnifique que vous voyez devant vous. Comme vous voyez, qui est très timide. Et je ne me demande pas si je l'aime aujourd'hui. J'ai pris une décision de l'aimer toute ma vie. Pourquoi? Parce que comme vous, il y a des matins que je me lève et j'ai sentiment pour elle. Et il y a des matins que je lève où je suis encore fatigué parce que j'ai pas assez dormi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que vous vivez dans le même monde. Mais je ne demande pas, est-ce que je l'aimais? J'ai décidé de l'aimer. Oui. Et heureusement, les sentiments suivent les décisions que nous prenons. Amen. Amen. Parce que j'ai une grande passion dans mon cœur pour cette femme. et elle pour moi. Et nous travaillons à cela. Il dit, quand j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous avons trop élevé dans l'Église les gens qui font des miracles. Mais nous devons élever les gens qui marchent dans l'amour, qui sont fidèles et qui sont constants. Nous ne voulons pas l'un sans l'autre. Mais pourquoi nous avons besoin de l'un sans l'autre? C'est génial qu'on voit les miracles instantanés devant nos yeux. On a besoin de ça. Jésus a promis cela. Mais nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui marchent constamment dans l'amour. Un amour qui se manifeste par nos actions, un amour qui s'entend par nos paroles. Vous avez entendu l'histoire de l'homme qui a dit à sa femme, « Chérie, vous savez, je t'ai épousé à 25 ans passé, à l'époque je t'ai dit que j'aimais. Ouais. Si jamais ça change, je te dirai. » C'est comme le fermier français qui a dit, « Vous savez, je prends un bain chaque mois, même si je n'ai pas besoin. » Il y a certaines choses qui ne suffisent pas, n'est-ce pas? Oui. Et une femme ne veut pas entendre que tu l'aimes chaque Saint-Valentin et rien entendre jusqu'à l'année suivante. Une femme a besoin d'entendre ça tous les jours. Merci, madame. Aide-moi un petit peu. Voilà, parce que, oui. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. On ne peut jamais dire à une femme assez qu'on l'aime. Mais vous savez, si vous le dites, si vous ne manifestez pas vos actions, elle va vous montrer combien elle vous aime aussi. Oui. Il est quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et maintenant, nous avons une définition d'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il n'est point orgueilleux. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Oh, gloire à Dieu pour la vérité. Vous êtes en train de cacher les choses de votre conjoint. C'est, il faut dévoiler. Il faut ouvrir son cœur. Il faut dire la vérité. Parce qu'une chose que je vous promets, le diable va dire, il ne va jamais savoir. Elle ne va jamais savoir. Vous savez, et celui qui va faire découvrir ça à votre conjoint, ce sera le diable lui-même. Il est menteur, jusqu'aux racines, le père de mensonges. Et nous avons besoin de vivre dans la vérité, l'un avec l'autre. Amen. Parce que la vérité vous... Bravo. Je sais que vous êtes bien enseigné ici. L'amour. Où est-ce que je suis? L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais ou ne fait faillite jamais, une autre traduction dit. Non, j'ai changé là, parce que ma Bible dit la charité, mais la charité aujourd'hui, le mot a changé. Ça veut dire autre chose. N'est-ce pas? Mais l'amour ne périt jamais. Dernière écriture que je veux lire avec vous, en Matthieu chapitre 18. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de vous dire ce matin. Je suis beaucoup plus concerné dimanche matin quand je prêche de ce que Dieu est en train de dire à son peuple que ce que moi je suis en train de dire à son peuple. Pourquoi? Parce que moi, j'étais pendant les longues années assis à votre place. Et j'ai réalisé, c'était pas le demi-heure ou l'heure que le prédicateur a prêché qui était important. C'était le moment où Dieu m'a parlé. Et c'était le moment où j'ai décidé d'agir en conséquence à ce que Dieu a dit. Et quelquefois, vous avez déjà vécu cela, oui, vous allez voir Pasteur Kay, vous dit merci, vous avez dit ça et ça. Et Pasteur Kay dit, je pense pas. Et vous réalisez que Dieu a parlé, même que Pasteur Kay n'avait même pas remarqué. Oui, peut-être il n'avait même pas dit, mais pendant qu'il était en train de prêcher la parole, Dieu vous a parlé. Et vous savez aussi bien que moi, quand vous prenez la décision d'agir en conséquence de ce que Dieu a dit, les choses changent. De cet instant. Amen. Je suis convaincu ce matin que Dieu est en train de parler. Ce message est presque trop simple. Mais les choses simples de la vie sont les choses profondes aussi. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes en train de marcher dans l'amour? Est-ce que nous avons donné place aux critiques? Est-ce que nous sommes en train de partager des semi-vérités avec les autres? Est-ce que nous sommes dans l'église, dans nos familles, en train de donner place à l'amour? J'ai dit quelque chose l'autre jour à quelqu'un, j'ai vu que cette personne était totalement choquée, comme les Britanniques, vous savez, on est choqués. Hein? J'ai dit à cette personne, nous n'acceptons pas des critiques dans notre maison. J'ai dit, mes enfants ont été élevés donc en tant qu'enfants de pasteurs, et nous vivons beaucoup de différentes situations dans l'église. Et nous avons pris la décision que jamais qu'on allait parler contre, qu'on critiquera quelqu'un de notre église dans notre maison. Et la personne me regarde avec des grands yeux comme ça, et dit, mais comment tu fais? Et je dis, mais c'est entre nous, on a besoin de parler, on a besoin de régler les situations, mais jamais devant les enfants. Et j'ai dit, on a déjà eu des gens qui ont été invités dans la maison, qu'on a demandé de partir, parce qu'ils ne respectaient pas cette règle. Et ils voulaient parler, ils voulaient critiquer d'autres personnes. J'ai dit, on a refusé cela. Et vous dites, vos enfants, mais vous les avez mis en coton, ils comprennent pas la réalité de la vie. Et je dis, vous plaisantez. Mes enfants sont allés à l'école. Ils vivent dans ce monde. Ils entendent la façon que les autres parlent, la façon que les autres agissent, mais nous leur avons montré qu'il y a une autre façon de vivre. Une façon saine. Que si vous n'avez pas bon à dire sur quelqu'un, ne dites rien. Ou dites qu'il a des beaux yeux. Parce qu'au moins, il peut avoir les beaux yeux, n'est-ce pas? Mais les gens, on se laisse avoir, parce qu'on vit dans un monde où on est tellement atteint par le monde, où tout le monde parle derrière le dos des autres. Excusez-moi. Moi, j'ai pris une règle. Si je ne peux pas le dire devant sa face, jamais je le dirai devant son dos. Et si j'ai en train de dire derrière son dos, pourquoi je ne l'ai pas dit devant sa face? Tu crois que quelque chose est vrai, mais va voir la personne. Va régler cela. Sois un homme, une femme honnête. Sinon, excusez-moi, je voulais dire, mais taisez-vous. Il y en a que nous avons perdu dans notre époque. C'est de se taire. Tellement des gens ont besoin de donner leur avis, quelqu'un dit, ils en ont tellement, ouais, de leur opinion, qu'il ne reste plus rien dans leur cerveau. Moi, je me rappelle, j'ai parlé avec une femme de Dieu, vous connaissez, elle va venir, je pense, Cathy Creek, où est-ce qu'elle est déjà venue? Elle est déjà venue, vous connaissez Cathy, c'est une grande amie, elle a travaillé pour un grand ministère, et je lui dis, mais comment tu agis quand celui qui dirige prend une décision et tu n'es pas d'accord? Elle dit, mais John, tu ne sais pas combien de fois c'est arrivé, que Pastor Hagin prenait des décisions, je n'étais pas du tout d'accord, il dit, mais une chose que j'ai appris, c'est de me taire. Donc, ne pas parler avec les autres de ce que je pensais, et même pas de parler avec moi-même de ce que je pensais. Elle dit, je mettais ça dans la prière, je laissais ça entre les mains de Dieu, et il dit, 95% du fois, Pasteur Hagin avait exactement fait ce qu'il fallait faire. Il était loin pour diriger l'église. Elle dit, mais et heureusement, je n'ai rien dit. Je dis, ça c'est intelligent, n'est-ce pas? Tu peux croire que le pasteur fait une erreur. Mais vous savez, c'est seulement avec le temps qu'on voit le fruit des choses, n'est-ce pas? On est trop vite à juger les gens que nous ne connaissons pas de toute la vérité. On connaît peut-être certains des données, mais pourquoi pas laisser l'amour primer? Pourquoi pas croire que Dieu est plus grand que les erreurs que nous puissions faire en tant qu'hommes? Moi, je suis pasteur depuis 23 ans, j'ai dû faire des milliers d'erreurs dans mon église. Mais vous savez, j'ai un cœur qui aime mon église. J'ai un cœur pour les gens et je suis appelé par Dieu pour diriger mon église. Vous êtes étonné là, je vois, ah, il a fait des erreurs. Vous n'avez jamais fait une erreur, bravo. Je suis vraiment fier de vous. Moi, je suis un homme honnête. Je sais que j'ai fait des erreurs et j'ai aucun problème de me lever. J'ai fait ça à maintes reprises devant l'église et excuse-moi, j'ai pris une mauvaise décision. Et ils sachent que je suis honnête. Tout simplement. Et je dis, écoutez-moi, je ne vous critique pas, ne me critiquez pas. N'est-ce pas? Et nous avons donné place à l'amour dans notre église. Et les gens qui arrivent de l'extérieur, est-ce qu'il y a des gens ici pour la première fois ce matin? Ah, bienvenue! On est ravis de vous avoir. Super, bienvenue. Mais quand les gens arrivent dans notre église, peut-être vous avez ressenti ça ce matin, mais il y a l'amour. Les gens sont honnêtes et vrais et ils nous accueillent, ouais, d'une façon qu'on n'a pas vécu ailleurs. Et ça, c'est génial. Amen. Vous décidez chez vous comment c'est. Peut-être il y a des choses à changer chez vous. Vous savez, si la peinture n'est pas à votre goût, vous changez, vous repeignez l'appartement, n'est-ce pas, ou au moins une pièce. Et si l'atmosphère n'est pas ce que vous aimez, prenez la décision de changer l'atmosphère. Chez nous, on a la musique, dans toutes les pièces, normalement toutes à la fois, toutes sortes de styles. Ma femme adore la musique, ouais, et mes enfants aiment la musique. Et vous allez de pièce en pièce, il y a la musique. Ouais. Mais c'est toutes des bonnes musiques, de toutes sortes de styles, mais la musique qui édifie, la musique qui encourage. Amen. C'est chez nous, c'est pas chez vous, peut-être vous aimerez pas. Ça, ma femme, un jour, je suis rentré, là, il a peint le salle de bain fuchsia. Mais pas une fuchsia calme, une fuchsia vraiment qui se jetait. Et je dis, chérie, c'est très, très, très joli. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois que vous repeignez le salle de bain, est-ce qu'on peut avoir une autre couleur? Parce que, en tant qu'homme, je suis pas très à l'aise dans une salle de bain fuchsia. Donc, il faut être d'accord, n'est-ce pas? Donc, elle a fait repeindre la salle de bain une autre couleur quelques années plus tard. Je suis beaucoup plus à l'aise dans mon salle de bain maintenant. Ça m'allait pas. Donc, on va terminer avec cette écriture en Matthieu 18. J'ai déjà dit? Vous y êtes? Je crois que c'est important. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, oh, homme de foi, waouh, 7 fois, c'est ce que Jésus a dit? Pas du tout. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70, donc vous savez, Louis II était suisse, 70 fois 7 fois, qui fait combien? 490 fois, ça veut dire, au 491e fois, c'est génial, j'ai plus besoin de pardonner, n'est-ce pas? Faut se mettre à compter, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que Jésus est en train d'enseigner? Absolument pas! Il est en train de dire, tu pardonneras toujours! C'est pourquoi le royaume des cieux, verset 23, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Un talent, c'était donc le salaire d'une année. C'est ça? Je crois. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Je ne sais pas si on vous a déjà pensé de vous vendre, toi, ta femme et tes enfants, mais il me semble que c'est assez grave. Les serviteurs se jetant à terre, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout, ému de compassion. Donc ça, le royaume des cieux est semblable à cela. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Vous comprenez ce que ça veut dire, remettre une dette? Oui? Il a effacé. Mais il dit, tu ne dois rien. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Un denier, c'est ce qu'on gagnait par jour. Donc, il lui devait 100 jours de travail. Lui, il devait 10 000 années de travail. Pour montrer la différence, d'accord? Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait disant, aie patience envers moi et je te paierai. J'ai l'impression que c'est les mêmes paroles qu'il avait donné lui-même quelques moments avant ou quelques heures avant. Mais l'autre ne voulait pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés. Il allait raconter à le maître tout ce que s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que Jésus t'a remis ta dette? Est-ce que Dieu t'a pardonné de tous tes péchés? Donc, qu'est-ce que quelqu'un aurait pu faire contre toi qui valent que tu perdes ce pardon? Parce que c'est de ça que Jésus est en train de parler. Parce que quelquefois, on croit avoir le droit de rester en colère, avoir une dent, avoir la rancune ou l'amertume envers quelqu'un. Verset 34, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et moi je dis, waouh. Pardonner, ce n'est pas une option. Dieu est amour. Nous sommes nés de cet amour. Nous sommes enfants de l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vous enlève une option. Peut-être vous avez cru que c'était une option, mais vous n'avez plus l'option. Il faut pardonner. Il faut laisser ça partir, parce que comme on entend les gens dire, mais je pardonne, mais je n'oublierai jamais. Oui, mais si Dieu dit ça, vous êtes, excusez-moi, cuit. S'il n'oublie pas. Quand Dieu pardonne, il oublie. Il efface. Amen. Et nous avons besoin de pardonner et oublier. Ça veut dire que nous ne répétons pas les choses. Il y a un proverbe qui dit que celui qui se répète les choses sépare les amis. Et nous avons séparé des amis, séparé même les membres de notre famille en répétant les choses. Moi je dis, prenons la décision ce matin, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Pourquoi? Parce que je veux vivre dans le pardon de Dieu. Parce que je veux vivre dans l'amour de Dieu. Parce que je veux que ma foi produise. Parce que je veux obéir au commandement de Dieu, d'aimer mon prochain. Amen. C'est très simple ce que j'enseigne ce matin, mais c'est tellement profond.
Vous savez, quelquefois, autant que chrétienne, c'est très difficile à se pardonner. Ce que John a dit, c'est juste. Mais moi, je sais, j'étais chrétienne depuis 3 ans et plus. Et je ne pouvais pas pardonner celui qui m'a violée. Et j'avais gardé leur rancune dans mon cœur. Et je dis, un jour, je vais régler son compte. Un jour, je vais le diffamer. Un jour, je vais prononcer ce qu'il a fait à moi. Parce que ma mère m'a dit, quand je lui ai dit à 10 ans, parce que je ne comprenais pas, à 10 ans, j'explique à ma mère ce qui m'était arrivé. Je dis, ah, maman, j'ai entendu ma mère parler. Et ensuite, je dis, maman, Je vais dire, elle dit, je ne dis jamais cela parce que si tu dis à ton père, il va le tuer. Et
il aurait fait.
Mon père aurait fait. Mon père, c'est un homme juste. Il dit, il va aller en prison et je vais avoir besoin de laver ses 7 enfants toute seule. Alors pendant 2 années, j'ai vécu avec cette honte et toutes les autres choses qui ça engendre et je voulais détruire la vie de cette honte. Et la vie de tous les hommes que j'ai rencontrés. Parce que tu sais, quand tu commences avec un petit péché, ça grandit et ça grandit et ça grandit. Et même en tant que chrétienne. Et John a eu besoin de prier avec moi afin que je pouvais libérer le pardon. Et ce matin, quand je suis venue, tu sais, avant que John a commencé à prêcher, j'avais une si forte onction. J'ai une forte onction de guérison dans ma vie. Mais ce matin, c'était, j'ai jamais. C'est depuis 2 années que je n'ai pas eu aussi fort. Il y a des gens ici, aujourd'hui, et vous n'arrivez pas à libérer le pardon envers ceux qui vous ont offensé. Et je veux que vous fassiez la ligne ici. On va seulement prier vite pour vous. Tu sais, on ne va pas parler, mais venez maintenant. Et vous allez être libérés et vous allez recevoir votre guérison. Si c'est votre cas, venez maintenant. Si vous trouvez ça difficile à pardonner ceux qui vous ont offensé. Viens maintenant. Tu sais, on ne joue pas. On va sur 3 minutes en train de prier et ensuite c'est pas après. D'accord? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue. Quand l'Esprit de Dieu est là, il faut agir.
Et nous n'avons pas besoin de savoir de quoi vous êtes offensé. Ça ne nous regarde pas. Ce qu'on veut seulement faire, c'est vous aider à l'onction de libérer ce pardon. Venez. Hallelujah. Hallelujah. Mettez-vous dans la ligne. On va faire une prière tous ensemble. On va seulement venir vous toucher. Hallelujah. Hallelujah. Si vous vous mettez derrière quelqu'un, sois prêt à les attraper s'ils tombent. D'accord? Regardez-moi tout le monde, il y a d'autres qui viennent. Alléluia. Dis ceci avec moi, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Je suis venu ce matin parce que j'ai besoin de l'aide de Dieu pour pardonner à ceux qui m'ont offensé. Et je crois que la puissance de Dieu va venir sur moi et je vais pouvoir libérer ce pardon et je vais pouvoir repartir d'ici un homme ou une femme nouvelle. Merci Seigneur pour la puissance de l'onction de Dieu. Je crois, je mets ma foi en action dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Donc vous levez vos mains, ne priez pas quand nous prions pour vous. Hallelujah. Vous recevez. On peut dire, je crois. Amen. Et le plus important, c'est de croire que Dieu a fait quelque chose. Quelquefois, il y a un temps avant qu'on voit le résultat dans notre vie, avant qu'on ressente quelque chose. Mais trop souvent, nous avons vécu sur les sentiments. J'ai ressenti la présence de Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai pas ressenti la présence. C'est pas une question de ce que vous avez ressenti ou pas ressenti. Je crois. Amen. Que l'on a eu une parole de la part de Dieu. Et je crois que l'onction de Dieu est entrée en vous pour que vous puissiez pardonner. Avant que nous partions compagnie, je ne voulais pas vous retenir, mais peut-être il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais invité Jésus d'entrer dans sa vie. Et j'aimerais pas que vous partiez sans avoir fait ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis venu dans une petite réunion chrétienne et je n'avais jamais rencontré Jésus. Et quelqu'un m'a donné cette opportunité. Il dit, est-ce que vous voulez ce que vous voyez ici? Je dis, oui, je le veux. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, vous invitez Jésus d'entrer dans votre vie. Et je dis, mais j'ai aucune idée comment faire ça. Et il a prié avec moi et ma vie a été transformée. Ça fait 34 ans passés. Oui. Est-ce qu'il y en a quelqu'un ce matin en levant la main, dit Pasteur John, je n'ai jamais invité Jésus dans ma vie, mais ce matin je veux inviter Jésus d'entrer dans ma vie. Est-ce qu'il y en a quelqu'un en levant la main qui dit Pasteur John, je veux prier avec toi? Ou peut-être vous êtes en train de revenir au Seigneur. Il y avait une époque où vous marchez avec le Seigneur, mais vous êtes reparti. Mais comme le fils prodigue, vous êtes arrivé à avoir raison et vous dites, il faut que je retourne au Seigneur. Peut-être ce matin, vous dites, Pasteur John, je veux que vous priez avec moi. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui revient au Seigneur? En levant la main? Hallelujah. Merci Seigneur. Ok, Pasteur Ken, c'est à toi. Donc j'espère voir beaucoup d'entre vous ce soir. Laura va prêcher avec moi. C'est très amusant, mais ça va être aussi très pratique. Hein?
Amen.
Et nous comptons aider beaucoup de gens.
Hallelujah.